jamais enfant, j'ai eu dans la tête l'idée d'être couturier. Enfin, soit bon, la légende familiale veut que, quand à 4-5 ans, mon grand-père a demandé à mes cousins et à moi ce qu'on voulait faire. Il y avait un chirurgien, un aviateur, un spationaute, je sais pas quoi. Et quand mon tour est arrivé, j'ai dit Christian Dior. En fait, c'était du théâtre que je voulais faire quand j'étais gamin. Dès 6-7 ans, j'ai découpé des silhouettes, je faisais des décors et j'ai fait ma première mise en scène d'une maladie imaginaire à 7 ans.
Le grand atelier.
C'était ça qui m'attirait.
Même si depuis une dizaine d'années, la haute couture n'est plus son domaine d'expression, eh bien rien n'y fait. Quand on prononce son nom, Christian Lacroix, ce sont des couleurs, des drapés, des galons, des broderies, ce sont ces robes qui nous viennent à l'esprit, ces robes en couleurs, qui respiraient le sud de cet Arlésien de naissance connu dans le monde entier. Souvenez-vous, même dans la série britannique Absolutely Fabulous, on évoquait son style.
Lacroix, sweetie. You know, people will think, wow, it's a Lacroix. Okay.
Depuis l'arrêt de son métier couturier, l'homme a gagné en liberté. Plus d'obligation de plaire et de vendre, mais la possibilité de dire oui ou non, souvent oui d'ailleurs. Oui à l'illustration de livres comme La Princesse de Clèves chez Gallimard. Oui à la création de costumes au théâtre comme à l'opéra. Il crée selon la demande et selon ses envies, des céramiques, des objets. Il décore des TGV ou des EHPAD de ses couleurs, de ses dessins. Récemment, il a découvert la lithographie et quand il évoque cette pratique nouvelle, un grand sourire envahit son visage, on croirait un enfant déguisé en sexagénaire. Bonjour Christian Lacroix.
Bonjour.
C'est vrai, le petit Christian d'Arles, le petit Christian Marie-Marc, vos trois prénoms, cet enfant-là vous poursuit?
Il est toujours au coin de la rue, il attend. Et là, je peux enfin le regarder dans les yeux et lui dire que les rêves ou les fantasmes ou les projets, parce que c'était même pas des rêves, c'était comme une carotte au bout d'un bâton que je me mets. Je pensais pas devenir costumier. Je pensais pas faire tout ça. Il se trouve que l'an dernier, j'étais quand même un peu déstabilisé quand je me suis rendu compte que tous les projets et tous les rêves de cet enfant-là, que je pouvais regarder dans les yeux si je le rencontrais, étaient réalisés. Donc je me trouvais au bord d'un précipice sans plus de rêves. Donc ça y est, là ça va mieux. En une année, il y a des choses qui se sont concrétisées.
Ah oui, justement, comment vous avez réparé ça?
Par exemple avec Axel, qui est avec nous, l'association des Petits Princes.
Axel Michelet.
Axel Michelet.
Bonjour.
Bonjour.
En justement partageant ce travail-là, qui est quelquefois très égoïste, sauf au théâtre, parce que c'est vrai, bon, la couture n'est pas là pour la raconter, c'est un travail, je l'ai fait et on a regardé mon travail, parce que c'est dans les années 80 qui était très théâtral, très opératique. Mmh. Je serais arrivé dans les années 90 du minimalisme, je pense que personne n'aurait regardé ce que je faisais, mais on se mettait en scène encore, on jouait des personnages, et comme je voulais confier, j'avais oublié cette histoire du maladie imaginaire à 7 ans. C'est peut-être un peu ce que Michel Faux, qui était avec nous,
bonjour Michel Faux,
faisait
bonjour.
Aussi. Je n'aimais pas la vie quotidienne, donc je la transformais, je la transfigurais. J'étais sans arrêt déguisé ou complètement ailleurs. Et la vie ne commençait que quand un rideau rouge, même si c'était un rideau très kitsch de cinéma de quartier pour un film de Fernand Reynaud, avec des tahitiennes fluo et les pubs de la ville autour, ça me faisait autant d'effet que Madame Butterfly, oh, ou l'Auberge du Cheval Blanc.
Ah, Michel Faux est un peu votre jumeau. Vous auriez eu des choses à vous dire et à jouer ensemble enfant, parce que Michel Faux, petit garçon, vous jouez avec des draps, avec des marionnettes. Vous faites déjà du théâtre?
Oui, oui, depuis tout petit. Oui, à 5 ans, j'ai eu mes premières marionnettes. Et puis, à 10 ans, j'ai voulu faire du théâtre. Oui. Mais en plus, j'étais influencé par des courants très différents, parce que je lisais Monterland, en même temps j'allais voir des opéras, en même temps j'allais voir des opérettes, en même temps...
Autre point commun avec Christian Lacroix, dont l'un des mots phares est l'éclectisme.
Oui, et j'avais rencontré un jour ce philosophe qui s'appelait Monsieur Dagonier, et qui m'a fait un grand plaisir en me disant que mon éclectisme, justement, créait quelque chose d'entier. Enfin, bon, je cherche le mot en français. Que mon incohérence créait ma cohérence. J'avais couru chez Bernard Arnault lui dire voilà le secret de la maison.
Bernard Arnault, avec qui, si je puis dire, vous avez eu une histoire, une belle histoire.
Ah, une belle histoire de d'amitié. C'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire.
En 87,
il me disait que j'étais bien le seul.
Grâce à son argent, vous ouvrez votre maison Lacroix.
Oui. Et je lui ai vendu mon nom.
Et parce que vous ne rapportez pas assez d'argent, eh bien, il vous remercie.
Non, il vend ma maison à des Américains qui, au début, sont formidables et puis qui après se trouvent un petit peu moins formidables. C'est entre leurs mains qu'est la maison, ce qu'il en reste, et mon nom.
Vous travaillez en musique? Vous dessinez en musique, Christian Lacroix?
Il y a eu des périodes où j'étais à la fois sur des chaînes d'infos, sur la vôtre, sur France Musique. J'avais 3-4
Vous n'aimez pas le silence.
Quand je me réveille, je ne peux que écouter ce qui s'est passé en absence, si je peux dire.
Alors que Michel Faux prend sa douche avec de l'opéra ?
Oui.
C'est tonifiant ?
Ah oui, ça me donne envie de vivre, oui.
À ce point-là ?
Oui, oui, parce que c'est dur de se lever et de sortir de chez soi.
Ah, vous vous réveillez avec l'envie de mourir, vous, avant la musique ?
Bah, je suis d'un tempérament plutôt dépressif, on va dire, donc... Mélancolique, on va dire.
Mmh. Je dis,
la oui, vous aussi. Mort. Voilà. Vous me promettez que cet après-midi ne sera pas dépressif. Ben, la preuve, on va commencer avec Nina Hagen. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous l'appréciez, vous, Michel Faux ?
Ah oui, parce que c'est d'ailleurs, elle avait une formation lyrique, Nina Hagen.
Oui.
Elle faisait des choses avec sa voix incroyable.
Mmh. Ben voilà, elle est dans le panthéon musical de Christian Lacroix, non ?
Ah oui, il n'y avait pratiquement pas un seul défilé sans... C'était comme un porte-bonheur. J'aime les gens qui mettent leur trip sur la table.
Vous connaissez sa version de My Way ?
Oui, bien sûr.
Bon, ça vous fait plaisir de l'écouter ?
Oui, ça fait pleurer, c'est bien.
À nous aussi. I know the end is near, and so I face the final curtain by my friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it more. Die Welt, es so kaputt, wenn es alles schockt auf dieser Erde. Oh, ça vous rappelle des souvenirs de défilé, Christian Lacroix ?
Ah oui, un défilé commençait comme ça, c'est-à-dire un petit peu lent, et puis elle envoyait, et on envoyait aussi.
J'ai presque envie de vous demander quelle couleur ça vous a inspiré, et même quelle robe ça vous a inspiré.
C'est du noir, comme une fleur noire qui explose après, avec beaucoup de couleurs.
En listant ce que votre main, depuis l'enfance, au fond, vous a permis de faire, et vous permet toujours de faire, Christian Lacroix, du dessin d'une robe à celui d'un costume, d'une céramique au décor d'un EHPAD, j'ai l'impression que tout vous est possible. Il y a quelque chose d'assez magique. Votre profession, au fond, grâce à cette main, c'est magicien.
Moi, je dis designer parce que je suis beaucoup plus moins poète que vous et que ça recouvre aussi bien un TGV qu'une pièce de théâtre ou que les ascenseurs qu'on a fait pour l'association des
Les Petits Princes avec Axel Michelin.
Mais c'est vrai qu'enfant, quand on était d'une génération où il fallait qu'on reste assis, si on te propose un verre d'eau, tu dis non, tu n'ouvres pas la bouche. Donc je regardais comme ça et rentrais à la maison. Tout ce qui m'avait déplu ou tout ce que je n'avais pas bien aimé, je le refaisais. Donc je refaisais le décor de l'appartement qu'on venait de quitter, la robe de la dame, la voiture du monsieur.
Ah, vous corrigiez en fait la réalité.
Complètement, je corrigeais la vie toute la journée. Et finalement, c'est un peu ce que je fais. d'intervenir sur le quotidien et d'apporter le peu que je sais faire, ce que j'aime faire, le partager avec des gens qui prennent un tramway à Montpellier à 6h du matin, peut-être que d'être au milieu de monstres marins et avec des sièges qui veulent ressembler un peu à des algues et en se tenant à des barres qui ressemblent à des coraux, peut-être que ça les effraie, j'en sais rien.
En tout cas, le dessin semble un sésame, quoi.
Oui, j'étais un enfant très solitaire, j'ai une sœur qui est arrivée 11 ans après moi, et donc cette solitude, je la remplissais par du dessin, c'est la seule chose que je sais faire. Même quand il n'y a rien, je dessine avec le doigt. Je dessine, quoi.
Là, vous n'avez pas de crayon, si vous
en
avez
un. Si, je ne sais pas comment il est arrivé.
On verra en fin d'après-midi ce qu'il en est et ce qui sort de ce crayon. La princesse de Clèves, je l'ai entre les mains. C'est un livre assez lourd, d'ailleurs. C'est un livre qui paraît avec vos illustrations chez Gallimard. Je le prête d'ailleurs à Michel Fou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion
de le voir. Il est prêt pour lui.
Vous le prêterez ensuite à Axel Michelet, ici présente. Je suis allé vous retrouver à la galerie Gallimard, à Paris, rue de l'Université Christian Lacroix, pour voir comment vous accrochiez ces dessins, parce que c'est aussi une exposition, en plus d'être un livre illustré, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Ben voilà ce que nous nous sommes dit il y a quelques jours. Christian Lacroix, là, je suis face à quel Christian Lacroix ?
Le Christian Lacroix qui réalise un de ses rêves d'école primaire. Alors, il a déjà réalisé celui d'être costumier de théâtre, mais c'est vrai que je disais souvent illustrateur. C'est là que je pense que je suis pas artiste, en fait, que je j'étale pas mes tripes, je ressens pas le besoin de m'exprimer moi devant une toile. J'ai toujours besoin d'être sollicité par le projet de quelqu'un d'autre ou avoir l'échafaudage d'une œuvre. Bon, là, c'est La princesse de Clèves. La princesse de Clèves, j'y suis arrivé par des chemins à détourner, en fait, par le bal du comte d'Orgel à Dôme.
Le bal du comte d'Orgel, de Radiguet.
De Radiguet, pardon, oui. Puis le film, ça enfant, par contre, le premier film de Marina Vladi, moi, je devais avoir 5, 6, 7 ans.
Gage au roi, monseigneur. Je vous invite. Voulez-vous être mon cavalier?
Gage payé. Dansons la glorieuse.
Et les costumes de ce film ont été aussi une révélation pour me convaincre qu'un jour je serai costumier. Donc, costumier illustrateur, c'est celui qui vous reçoit aujourd'hui.
Vous avez dit une chose importante et grave. Vous avez dit « je ne suis pas artiste ». Alors quand on pense Christian Lacroix, c'est sûr qu'on pense encore à celui qui a habillé les femmes, même si ça n'est plus votre activité depuis un moment. Mais on a l'impression que ça naît de votre imagination et vous nous dites « non, j'ai besoin que quelque chose existe, j'ai besoin d'une réalité ou de quelque chose pensé par un autre ».
C'est de le répliquer en fait. Je crois que si on m'avait demandé à 15, 16, 17 ans d'illustrer La princesse de Clèves, je fais le tournoi, le mariage, le couronnement avec des processions de costumes très fouillés. Alors que là, il y a un côté presque, pas ludique, parce que c'est presque un peu comme une bande dessinée, ce qui m'est venu. Ou alors des choses très noires, parce qu'il y a cette femme quand même, on la plaint, on l'admire, on l'aime. Il y a quand même ce miracle, on en tombe amoureux. Pour moi, c'est un roman anachronique par rapport à son époque, qui est presque contemporain.
Alors, la princesse de Clèves aime le duc de Nemours. Mm-hmm. On va les rechercher un peu dans vos dessins.
Ils n'y sont pratiquement jamais. Je trouvais que c'était vraiment impossible, comme Dame de Guermantes. Il y a des personnages comme ça qui font très peur aux cinéastes, qui font très peur aux peintres, parce qu'on a beau, pour Proust, trouver 36 modèles, le vrai, il est dans la tête et on n'a pas envie de lui donner une chair qui n'est pas celle que les gens attendent.
Pourtant, il y a des figures féminines et masculines.
Mais ça peut être Madame de Martigues.
Là, sous les yeux, on a qui ?
Bon, c'est peut-être, oui, là quand même, oui. Et là, c'est vrai que ça a été un tremplin pour trouver d'abord la peinture que j'ai jamais vraiment pratiquée. Je sens que je vais m'y mettre sérieusement. Et l'édition de tête est accompagnée d'une litho. Et je n'ai pas honte de le dire, je savais à peine comment on faisait de la lithographie.
On peut la voir, la litho que vous avez faite ?
On a un personnage qui se voudrait peut-être cette princesse de Clèves un peu évanescente, avec des personnages au fond, et un ciel orageux qui l'accompagne.
Et un mauve Christian Lacroix.
Oui, ça c'est une couleur comme celle d'un peintre. C'est pas une encre existante numérotant. Ce sont des couleurs qu'on mélange. Et ensuite, il faut la doser sur les rouleaux qui tournent exactement, pas que ça bat. Enfin, pour moi, une litho, c'était quelque chose d'un peu massif, d'un peu structuré, d'un peu très graphique, des contours très précis.
C'est très léger, voilà, très aérien.
Voilà, mais bon.
Et très tourmenté.
Et très tourmenté, voilà, comme moi. j'ai eu une émotion comme j'en ai très rarement éprouvé, comme un voile qui se déchire, une porte qui s'ouvre, et de l'alito, je vais en faire, ça c'est sûr. Ça fait 10 ans l'année prochaine que je ne suis plus couturier. Le théâtre a pris la place que je lui souhaitais quand j'étais enfant, puisque j'ai multiplié quand même beaucoup de productions. Pas trop, mais presque. Je suis aussi devenu décorateur l'an dernier avec à la Comédie Française, avec l'Hôtel du Libre-Échange et à l'Opéra Bastille avec les décors du Songe d'une nuit d'été. Et ça aussi, ça a été une belle ouverture que je souhaite continuer. Et je sais bien qu'après le théâtre, il faut qu'il y ait autre chose qui sera peut-être l'expression de quelque chose de plus personnel. Et aussi, ce que je ressens comme profond besoin aujourd'hui, c'est de se tourner vers les autres. Je suis intervenu dans le sud, dans un hôpital à Martigues précisément, où j'ai décoré de fresques infographiques un endroit très poignant, enfin qui est celui où l'on reçoit le diagnostic « ai-je un cancer ou pas ?». J'ai été très bouleversé quand un malade, quand je suis retourné, que les lieux étaient en fonction, m'a dit « nous venions à reculons, mais depuis que vous avez fait ça sur les murs, j'y viens avec un tout petit peu plus de lumière le matin ». Si je suis en train de continuer la rénovation d'un EHPAD, une maison de retraite aussi entre Nîmes et Arles, un endroit qui s'appelle Vauvert. Et ça, sont des choses qui m'enrichissent et dans lesquelles je sens que mon travail est utile. Ça me plaît. C'est-à-dire que si je rencontre demain le gamin que j'étais, je peux le regarder en face.
Et vous êtes toujours en train de courir après ce gamin.
Oui.
À 7 ans, vous illustrez Barbe Bleue.
Mmh. Encore une fois, rien ne me faisait plus plaisir que d'avoir à illustrer, d'avoir à un support, même jeune adulte en arrivant à Paris dans les années 70, quand j'allais à l'opéra et que la mise en scène et les costumes ne me plaisaient pas, c'est là que j'ai commencé à faire moi-même dans mon coin, pas vraiment des mises en scène, mais des décors et des costumes que j'ai pu montrer après. Alors c'est pas ce qui a pris d'emblée, c'est la mode qui a pris le pas, par hasard presque.
Et un succès de plus pour Christian Lacroix. Mais comment fait-il pour nous présenter de saison en saison autant d'inventions, autant d'heureuses surprises? Et s'il nous propose encore la Camargue qu'il connaît bien, c'est avec une vision nouvelle. Nostalgie et déclinaison de la couture dans des lignes plus abordables.
J'ai jamais lu le livre de Simone Signoret, « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était », mais je peux le prendre en mon compte. En tout cas, c'est un joli titre, et pour moi, la nostalgie n'est plus le moteur qu'il était.
Ah, ça vous fait rire, monsieur Lacroix.
C'était très beau, alors la nostalgie redevient ce qu'elle est, j'en sais rien. Le passage sur la couture, c'était très beau.
Votre défilé.
Ouais.
Michel Faux, vous avez entendu, finalement, les bases d'aujourd'hui, de 2018, de Christian Lacroix. Il va vers le théâtre, les costumes, les décors, la lithographie, le travail, Axel Michelet, avec des associations, des malades, des enfants, des personnes âgées. Et il dit, Michel Faux, je ne suis pas un artiste, je n'étale pas mes tripes. Vous qui avez travaillé, vous avez fait appel au talent de costumier pour Tartuffe. Mmh. Vous qui avez travaillé avec Christian Lacroix.
J'étale les tripes de Michel.
Vous avez le sentiment qu'il n'est pas un artiste?
Je pense que Lacroix, c'est un génie. Il a inventé quelque chose. Je pense que c'est une apparition, c'est un ovni comme ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'il n'est pas un artiste.
Votre Tartuffe, c'était l'année dernière au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, entre autres avec Michel Bouquet. Tartuffe, c'était vous. Quand vous prenez votre téléphone ou que vous lui envoyez un mail, pourquoi c'est à Christian Lacroix que vous vous adressez pour les costumes?
Parce que j'ai toujours rêvé de travailler avec Christian Lacroix, parce que moi, même j'allais voir ses défilés parce que je trouvais que c'était plus théâtral que le théâtre que je voyais à ce moment-là. Mais j'ai toujours rêvé, j'avais un projet de monter l'Arlésienne d'Alphonse Daudet, je voulais le faire avec Lacroix. Même j'avais un projet sur Carmen, je voulais le faire avec Lacroix. C'était associé, et sur le Tartuffe, je voulais quelque chose de très baroque, mais ce qui me plaît avec Christian, c'est qu'il part de peinture, il part du style de l'époque, mais après il le déforme, il le réinterprète, il le rêve, et c'est ça qui est, pour moi c'est ça vraiment le geste artistique.
Racontez-nous votre travail avec Michel Faux. Vous travaillez régulièrement avec des metteurs en scène de théâtre et d'opéra.
On peut citer
Podalydès entre autres, Éric Ruff et d'autres, Christian Lacroix. Le point de départ c'est quoi? Il vous dit voilà comment je rêve le Tartuffe?
Il savait très bien ce qu'il voulait, cette peinture espagnole du 17e sur laquelle on s'est rencontrés. Moi, Michel, je le voyais de loin. Alors, c'est pas qu'il me faisait peur, mais des personnages aussi flamboyants et qui me correspondent quelque part, on a aussi envie de les garder un peu comme ça pour plus tard. On s'est dit peut-être le jour viendra. Alors on était un peu timides tous les deux, c'est vrai. On s'est retrouvés un soir au Molière ou au César, je sais plus, assis à côté. Alors j'avais bien vu qu'il portait beaucoup de choses de moi. Et puis j'étais avec une grande comédienne pour qui j'ai une grande, grande, grande admiration et qui m'a intimidé beaucoup. Après, bien sûr, je connaissais son travail, mais je me suis toujours dit que les choses arrivaient au bon moment, qu'il y a un timing des choses, et je suis assez patient avec ça. Et je me doutais quelque part qu'un jour, forcément, on se rencontrerait. Mais pour vous répondre, c'est vrai que si un metteur en scène arrive avec un projet de faire Carmen sur la Lune et qu'il me propose des arguments que je comprends, auxquels j'adhère, je peux partir sur cette histoire-là.
Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'entendre longuement le metteur en scène au départ.
Oui. On a découvert après que sur le chemin qu'on a fait l'un vers l'autre avec Michel, la Phèdre de Anne Delbé, avec Martine Chevalier en 94, je crois, à la Comédie Française.
Vous avez reçu un Molière, d'ailleurs.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la préparation avec Anne, c'était des nuits entières à l'écouter parler, à l'enregistrer. D'ailleurs, après, elle a écrit un livre sur Racine, qui fait l'autorité. Et la manière dont elle rendait faisait rendre les alexandrins aux comédiens français, c'était merveilleux. Et d'ailleurs, ça a beaucoup inspiré Michel dans son spectacle sur les tragédiennes et sur Phèdre.
Alors, vous avez parlé de votre Tartuffe et du rêve de votre Tartuffe de Molière sur scène, quelque chose de très baroque. Qu'est-ce qu'il vous a rendu, si je puis dire? Il est venu avec des gravures, avec des illustrations, avec des photos, peut-être, Christian Lacroix?
C'était en sens inverse, c'est Michel qui m'envoyait les tableaux, et après je les réinterprétais, et j'ai rien à exiger. Mais quand je sens qu'un metteur en scène n'est pas intéressé par le costume, n'assistera pas aux essayages, ça ne m'intéresse pas. Je préfère quelqu'un qui soit là, à côté de moi, qui me disent ça, c'est pas ça, on se trompe. Et avec Michel, c'était formidable.
Ce qui est à la fois formidable, c'est que Christian Lacroix m'a surpris, parce que même par moments, je lui disais, ben voilà, c'est pas difficile, tu fais du Christian Lacroix. Et en même temps, on a passé des heures à parler de la place d'un ruban ou d'un bracelet. On me racontait que Luchino Visconti était comme ça, il passait des heures à parler d'un ruban ou de la longueur d'une jupe. Mais ça fait partie du geste artistique, je pense.
Votre Tartuffe était recouvert d'une cape rouge.
Rouge ou un
fuchsia.
Un fuchsia, plutôt.
Oui, oui, oui.
Comme un cardinal, ouais.
Vous aviez mis des jours et des jours à trouver cette couleur?
Ça a été très difficile. C'est une teinture qui est très difficile à doser. Il y avait un camailleux, en fait, de plusieurs fuchsias.
Le vieil Orgon fasciné par l'horrible Tartuffe, comment était-il habillé, costumé par Christian Lacroix, Michel Faux?
On avait voulu qu'il soit comme le maître de Santiago, qu'il soit très austère, presque un costume renaissance, je dirais, noir en velours, avec un col blanc mais très très fin. Et qu'il soit vraiment comme le Gréco, c'est ça la peinture de...
N'accepterez-vous pas ce que je vous propose?
La volonté du ciel soit faite en toutes choses.
Et Madame Pernelle, qui est comme son fils fasciné par Tartuffe?
Elle était comme Anne d'Autriche, en fait. Elle était comme le siècle d'avant, en fait. Et Tartuffe, il tirait vers le marquis de Sade, en fait. Ils étaient tous les deux mal dans ce XVIIe siècle, en fait.
Sade, vous l'avez lu, adolescent, à Arles?
Bien sûr. Mais c'était aussi la rencontre avec Michel Bouquet qui était impressionnante. Là, j'étais quand même devant deux monstres sacrés. Et c'est vrai qu'il est absolument impressionnant et très, 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 très adorable et qu'il m'a fait un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir en tant que costumier. Parce qu'il avait beaucoup d'appréhension. Et le jour où il s'est vu dans le costume, il m'a dit, bon, ça y est, là, je n'ai plus peur. On l'a trouvé.
C'est ça le cadeau.
Michel Bouquet vous dit ça.
C'est ça le cadeau qu'on peut vous faire.
On tape sur l'épaule du gamin qu'on était, on dit bon. Michel Bouquet te dit ça.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent, je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circule. Et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. À gagner parfois quand le temps vous oublie.
Dominica, le temps qui passe sans moi. Je voudrais qu'on évoque une figure importante de la littérature et aussi une figure arlésienne, c'est Jean Cocteau. Mm-hmm. Je pense pas que vous lui ayez parlé puisque vous étiez enfant quand il venait.
Frôlé.
Ah oui, vous l'avez frôlé quand il assistait au corrida et j'imagine que Michel Faux apprécie Jean Cocteau.
Ah oui, bien sûr, et puis ses dessins et puis il a d'ailleurs écrit une Antigone où le décor c'était Picasso, les costumes Coco Chanel et la musique Honegger. C'est quand même pas mal, au théâtre de l'Atelier.
Vous n'avez pas mis en scène encore Cocteau ?
Non, mais c'est un répertoire qui est compliqué mais passionnant et j'y reviens tout le temps. Et à chaque fois je me dis non, pas cette pièce-là. Mais la Machine Infernale, c'est très très beau. La scène du Sphinx, c'est on dirait du Valère Novarina, c'est très très beau.
J'évoquais Cocteau, je voudrais vous citer une phrase de lui qui date de 51, parce que je pense qu'elle peut résonner en vous. « Ne jamais perdre de vue que la mode devient costume, qu'un costume de théâtre doit retrouver le vif de la mode, que les événements historiques étaient noyés dans la tourmente de tous les jours, que les héros mangent, digèrent et chient. »
Ah, je n'avais jamais lu ça. Ni entendu, c'est formidable.
C'est formidable, non ?
C'est formidable.
C'est cette idée aussi que vous développez, qu'il faut être près d'une réalité et qu'il faut s'intéresser à la quotidienneté, qu'on peut faire des costumes de théâtre, mais ne pas être loin du réel. J'entends ça souvent de votre bouche, Christian Lacroix.
Le théâtre, et peut-être que je me trompe, mais ça doit rester quelque chose, non pas d'inaccessible, mais on doit quand même quitter le quotidien quand on s'assoit dans un théâtre. Quand on me dit oui, on va le transposer, ça se passe aujourd'hui, ils sont en jean et en t-shirt, je dis bon, vous n'avez pas besoin de moi, c'était pas la peine.
Mais je pense que c'est parce qu'on est conscient du réel qu'on essaie de rêver cette réalité. Mais je pense qu'il faut être conscient, il faut être totalement en contact direct avec la réalité et avec le sublime et la cruauté de la réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces spectacles-là, parce qu'on connaît la... J'ai beaucoup de metteurs en scène qui sont pas du tout dans le réel, et du coup, ça les excite d'un seul coup de mettre un costard-cravate avec un néon et une chaise en plastique, parce que ils ne connaissent pas du tout. C'est un peu comme Marie-Antoinette qui joue à la bergère, quoi. Même, je regarde le visage des spectateurs tous les soirs au Théâtre de Paris, là, je regarde qui sont ces gens qui se déplacent pour aller au théâtre.
Vous avez le temps de penser à ça quand vous jouez?
Non, avant de jouer, pas pendant que je joue.
Ça m'inquiétait.
J'ai une poursuite dans la figure, donc qui me suit.
Donc je vous ne vois pas. Vous les regardez au salut.
Non, juste avant de jouer, je les regarde tout le temps.
Mais quand il dit Cocteau, je reviens à lui encore une fois, que les héros mangent, digèrent et chient, il veut dire aussi que, par exemple, quand vous jouez Tartuffe, il faut qu'il existe, qu'il soit réel.
Moi, je trouve que ce qui est beau, c'est quand il y a un mélange de trivialité, de raffinement. C'est ça qui est le baroque,
Tartuffe,
en fait.
Manger, digérer.
C'est pour ça que je voulais que Tartuffe, avec son costume sublime d'évêque, mange un poulet à main nue, oui. Parce que je voulais qu'on ait cette image, en effet, extrêmement triviale.
Oui. Qui est Axel Michelet, alors, à côté de vous? Vous avez travaillé...
On va passer de la princesse de Clèves au petit prince.
Oui, alors. Voilà. En fait, Petit Prince, c'est une association.
On s'est rencontré avec l'association et avec Axel Michelet, parce que j'ai eu à faire les décors de Songe nuit d'été à Bastille, et je sais dessiner des décors, je sais pas les réaliser, donc il me fallait quelqu'un de formidablement technicien, doué, formidable. Et c'est une très jeune femme qui s'appelle Camille que l'opéra m'a proposé. Et à la fin, timidement, comme on s'entendait très bien, qu'on partageait beaucoup de choses, elle nous a parlé de l'association, que j'avais entendu parler des rêves réalisés par l'association pour les enfants.
Je précise que l'association permet de réaliser les rêves des enfants malades de cancer, entre autres.
Hein. Exactement. Mmh.
Je n'ai pas réalisé de rêve d'enfant, mais Axel va mieux vous raconter ce projet de redécorer les nouveaux ascenseurs.
Alors comment ça s'est passé concrètement avec Christian Lacroix et ses enfants? Qu'est-ce qui s'est joué, Axel Michelet?
En fait, l'association a deux missions. La première, c'est de réaliser des rêves pour des enfants malades. La deuxième, c'est de financer des projets, justement, pour ces hôpitaux. Et donc, nous avons voulu proposer à un hôpital de décorer un espace qui est emprunté par les enfants au quotidien. On a proposé donc à l'hôpital Trousseau, Armand Trousseau, à Paris. On a ensuite réfléchi aux services, dans quels services et quels enfants allaient pouvoir participer à ce projet. Et l'hôpital nous a suggéré de travailler avec des enfants du service de dialyse. Alors pourquoi la dialyse? Parce que ce sont des enfants qui viennent une, deux, trois, quatre fois par semaine.
Oui, c'est lourd.
Fois,
hein.
C'est lourd. Mmh. Et donc ça nous a paru intéressant que ce soit ces enfants-là en particulier qui participent.
Alors qu'est-ce
projet.
Qui s'est passé, Christian Lacroix, devant ces enfants? Vous leur avez dit prenez des crayons, prenez des aquarelles, des gouaches et faites quelque chose?
J'ai justement aimé l'idée que ça soit eux qui dessinent. Donc il y avait aussi Virginie et Valérie qui les suivaient, qui les suivent en dehors du projet, je pense. Et je suis tombé devant de 3 à 17 ans à peu près.
De 3 à 18 ans. Oui.
3 à 18 ans. Et chacun avec un univers formidable. Et jamais, 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 je n'oublierai Matisse qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Qui en plus de ce problème-là avait certains handicaps. Difficile de parler avec lui. La mobilité
était
difficile. Les crayons, je sentais bien que c'était pas ce qu'il a... Alors, j'avais eu l'idée, parce qu'il fallait quand même un peu encadrer et structurer tout ça, que puisqu'on avait à peu près 4 espaces à décorer, que l'on suive l'idée des l'air, la terre, etc. Donc, il y avait des journées où on faisait des fleurs, des journées où on faisait des animaux, des journées où on faisait des avions ou des bateaux. Mais c'était simplement des suggestions. Après, il faisait ce qu'il voulait. Et ce petit garçon, vraiment, on sentait qu'il était rétif un peu. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition que le moment où il allait avoir de la couleur entre les mains, il allait s'illuminer et faire des choses formidables. Il a un coup de brosse, de crayon, une énergie. Il y a peu de choses qu'on a envie d'avoir chez soi, devant soi, qui vous donnent l'énergie, un peu comme, j'oublie toujours le nom, dans les maisons japonaises, il y a un endroit où on met la céramique ou la calligraphie qui vous porte et qui vous fait méditer. Et les dessins de Matisse, c'est vraiment ça. Et au-delà de Matisse, il y a une famille, toutes les familles, les enfants avaient tous un univers, chacun très riche. Hein, et puis le personnel soignant, bon, là, on dit toujours ça semble être très banal, mais c'est à la fois bouleversant et très galvanisant.
Axel Michelet, vous avez vu la présence, non pas d'un artiste, puisqu'il ne se définit pas comme ça, Christian Lacroix, mais d'un décorateur avec ses enfants. Qu'est-ce que vous avez perçu entre eux? Qu'est-ce que ça a apporté, au fond, au-delà de ces dessins qui se retrouvent sur des ascenseurs, sur les portes d'ascenseurs?
Quand on a sollicité Monsieur Lacroix, on lui a proposé le projet, il a adhéré évidemment immédiatement et on s'est dit ce serait bien de le faire venir au moins une fois à l'hôpital pour qu'il rencontre les enfants, pour qu'il s'approprie le lieu. Il est venu donc une première fois au mois d'octobre l'année dernière et on s'est dit compte tenu de ses engagements, de son emploi du temps, ça va être difficile de renouveler l'expérience. Et puis en fait, à la fin du premier atelier avec les enfants, on a senti... je sais pas, un déclic, une illumination, et en fait, il est venu 7 fois. C'est-à-dire qu'on ne l'arrêtait plus. Il y a vraiment eu une envie d'aller plus loin, de connaître les enfants, de discuter avec chacun d'entre eux, de discuter avec les familles, avec les équipes soignantes aussi, vraiment que je remercie aussi chaleureusement parce qu'ils nous ont accueillis dans le service. On est quand même dans un service de soins, pas facile. Et en fait, on était admirablement bien accueillis. Et voilà, donc on a pu organiser cet atelier. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir. Et je crois que Monsieur Lacroix aurait bien continué si, à un moment donné, il a quand même fallu qu'il se mette aussi au travail et que, c'est à partir
parce
de
que
tous les dessins.
C'était qu'à partir des dessins des enfants, je les mette en scène, bien sûr. Donc, j'ai fait un collage pour chaque ascenseur, en intervenant très, 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 très peu. J'ai simplement relié leurs dessins. Moi, je m'étais dit, promis, et je pensais que c'était ça le projet, que je ne devais commettre aucun trait. Simplement mettre en scène un peu. et on a agencé leurs dessins en les mélangeant tous, en les reliant par des gravures anciennes.
J'ai l'impression qu'à un petit peu plus de 60 ans désormais, vous avez besoin d'être connecté à ce qui se passe autour de vous, que vous
avez peut-être de transmettre aussi,
de sortir aussi de votre nombril, peut-être.
Oui. J'ai passé beaucoup de temps, donc je peux aller voir ce qui se passe.
Mais quel a été le déclic? Parce qu'il y a l'association Les Petits Princes, Alzheimer, arrivé, les EHPAD.
Les choses viennent au bon moment. Et cette invitation-là, elle est tombée vraiment à pic à un moment où j'avais envie d'être moins égoïste, d'être moins dans mon petit tunnel, et où j'avais envie de partager et que ce que je sais faire, j'avais eu l'expérience, on avait commencé l'EHPAD de Vauvert, et là aussi c'est très poignant parce que c'est un endroit qui accueille beaucoup de patients qui ont Alzheimer. Et donc là, le processus était encore plus compliqué parce que quand on a cette maladie-là, il y a certaines couleurs qui sont absolument pas recommandées du tout, certains motifs, c'était très 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 compliqué, certaines photos, peut-être pas de personnages, donc là aussi on est resté un peu dans les fleurs, etc. Mais on le faisait pour les patients, pour les résidents et leurs familles aussi, pour que on sent bien quand on arrive dans ce lieu-là. Moi-même, le premier, j'ai l'estomac qui se tord parce que il y a des gens en assez mauvais état mental qui peuvent hurler, qui peuvent avoir des comportements un peu débordants. Et là aussi, personnel soignant rayonnant, merveilleux. Et des familles qui participent aussi, parce que quand on présente, on fait ça par tranche, par étage, et les familles viennent discuter avec nous du projet. Donc je me sens un peu, Michel disait tout à l'heure, quand on regarde, on se tient au courant, et c'est encore mieux si au-delà de l'écran de télévision, on est parmi ces gens qui rencontrent, qui font face à des problèmes, que ce soit des parents des enfants ou les enfants de ces patients.
Eh bien, merci Axel Michelet d'être venu partager cette expérience.
Merci à vous.
Mais elle n'est pas finie, parce qu'on a promis d'aller les revoir. Mais ça, c'était presque, ça fait partie des soins presque, de ne pas les laisser tomber.
Donc vous reverrez ces enfants.
C'était des rendez-vous.
On va écouter Massive Attack, rien à voir, Christian Lacroix, parce que ça fait partie de votre bande-son. Hein, vous les écoutiez dès les années 90.
Je suis rarement fan, et là j'étais fan.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Massive Attack, alors quelles robes vous viennent à l'esprit? Parce que j'imagine que Massive Attack était utilisé dans vos défilés, Christian Lacroix.
Non, ça c'était plutôt personnel. C'était plutôt pour dessiner, pour donner l'énergie, se sentir en vie, comme disait Michel le matin, oui. Mm-hmm.
C'est quoi l'élégance?
Oh là, bon, je vais vous faire la réponse bateau. L'élégance du cœur, l'élégance de l'esprit. Non, c'est une attitude, c'est quelque chose qui est inné.
Quand on dessine des costumes d'opéra pour une soprano, est-ce que on vise l'élégance?
Tout dépend du personnage, je pense. On peut, le metteur en scène peut demander à ce que le personnage ne soit pas élégant du tout. C'est surtout pas un défilé de mode. À mes débuts, entre guillemets, quand j'arrivais, j'ai fait beaucoup de costumes de danse d'abord. Mais quand je suis arrivé, je me souviens très bien pour le, au Bouffe du Nord, pour commencer à travailler avec Lambert Wilson sur Les Caprices de Marianne. La plupart des acteurs et des actrices étaient très réticents parce que chacune m'a dit, mais je ne suis pas mannequin. Moi, j'étais pas là pour faire des choses de nymphette ou de... Ça, je l'ai entendu beaucoup aujourd'hui. On sait que je suis costumier.
Vous êtes imposé très vite comme costumier.
Très vite, non. Mais je suis plein de gratitude envers un garçon qui s'appelle Jean-Luc Tardieu et qui a été le premier, en regardant à la télévision des modèles de Patoun dans 82-83, à m'écrire en me disant « Monsieur, vous êtes fait pour le théâtre ».
Metteur en scène Jean-Luc Tardieu.
Metteur en scène Jean-Luc Tardieu, qui a eu la chance d'habiller Edwige Feuillère grâce à lui. Et donc, il m'a confié mes premiers costumes, qui étaient ceux de Chantecler à la Maison de la Culture de Nantes.
La voix de Julie Fuchs, qui est en duplex d'Avignon. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour.
Tout le monde vous salue.
Je suis très heureuse de vous retrouver, vraiment. Ah.
Même Michel Faux vous salue, car il vous connaît, Michel Faux.
Mais oui, c'est vraiment une belle table que vous avez là.
Vous avez travaillé ensemble aussi, Michel Faux.
Elle m'a supporté, oui, parce que je l'ai mise en scène dans Ciboulette et... je ne la lâchais pas, j'étais insupportable. En plus, comme je suis psychorigide, c'était...
Il était merveilleusement insupportable, effectivement. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Il est insupportable comment?
Bah, il nous pousse plus loin que ce qu'on imagine, donc ça nous oblige à dire « Mais mince, mais c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas ?» Et c'est formidable.
Il vous améliore comme comédienne, j'imagine.
Ah bah oui, et puis c'est ce qu'on attend quand on fait de l'opéra. Moi j'ai fait du théâtre, mais voilà, je suis pas comédienne et j'attends ça absolument d'un metteur en scène qui me fasse progresser, qui m'enrichisse et qui m'inspire.
Vous avez évidemment une belle voix chantée, mais une belle voix parlée. Vous pourriez nous parler du timbre de la voix de Julie Fuchs, Christian Lacroix, même si c'est son corps que vous avez habillé?
Julie, c'est la voix d'abord, non pas parler, mais bien sûr la voix chantée. Et puis après la rencontre. On s'est rencontrés au Théâtre des Champs-Élysées sur la Clémence de Titus qui mettait en scène Denis Podalydès. Elle dira ce qu'elle en pense, mais pour moi c'était une très 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 jolie rencontre. Parce que de même que je disais tout à l'heure que les metteurs en scène qui ne sont pas très soucieux du costume me sont moins, je suis moins attaché, j'aime aussi les comédiennes et les cantatrices, les chanteuses, les danseuses qui aiment ça, et qui aiment les essayages.
C'était votre cas, Julie Fuchs?
Qui donnent leur avis.
Mais difficile, je sais pas.
Non,
avec Christian, j'ai pas eu besoin d'être difficile. Mais effectivement, oui, j'ai un avis, j'ai une vie avec le costume. L'artiste a une vie avec le costume, donc c'est très important, je trouve, d'être dans une discussion sur ce costume et de pas le subir.
Vous pourriez nous raconter le travail avec le costumier Christian Lacroix, Julie Fuchs?
Bah, avec plaisir. Effectivement, on s'est rencontrés sur la production de La Clémence de Titus. Effectivement, j'avoue humblement que ça a été une de mes premières pensées. Je me suis dit, oulala, il va falloir qu'il marque la taille, là. Et je ne pensais qu'à ça. Et très vite, j'ai compris que, en fait, évidemment, le travail avec Christian serait bien plus riche et bien plus global qu'un travail esthétique, d'abord. Et donc, voilà, pour les costumes de la Clémence, j'étais très heureuse parce que c'était dans les années 30 et j'aime cette époque et je me sentais très, très bien dans ces costumes et dans ces matières. Et ensuite, on s'est retrouvés avec voix sur la production du Contori à l'Opéra Comique.
De Rossini.
Et là, j'ai eu vraiment le grand plaisir de recevoir un email où on me demandait, voilà, est-ce qu'on pourrait se rencontrer d'abord pour parler des costumes. Et mais j'ai trouvé ça mais fantastique. Je me dis mais alléluia. Et donc on s'est retrouvés. Christian m'a montré ses dessins, les matières. M'a demandé mon avis, notamment sur la question du corset, qui est une question délicate pour les chanteuses. Et d'abord, d'un point de vue processus, j'ai trouvé ça fantastique d'être intégrée comme ça, pratiquement à la base de la création, et de pouvoir donner mon avis. Et quand j'ai dit que le corset, j'adore parce que ça m'incie, mais c'est quand même l'ennemi de la chanteuse pour respirer tranquillement, j'ai été très heureuse de voir que Christian... C'est un exemple, hein, mais a tout de suite accepté d'intégrer de l'élasticité, voilà, d'ouvrir son travail pour que le costume soit esthétiquement magnifique, mais aussi qu'il puisse me permettre d'être libre sur scène.
Vous travaillez avec des comédiens, des comédiennes et donc des chanteurs et des chanteuses d'opéra. Il y a une grande différence pour vous, Christian Lacroix, ou la relation avec un interprète est exactement la même ?
Ah non, elle est différente chaque fois. Là, je pars par exemple à Francfort... pour les tannes de Béline à l'opéra, et je suis un peu angoissé parce que je n'ai pas encore rencontré les chanteurs chanteuses que je ne connais pas, et quelquefois les metteurs en scène, je me souviens d'une production à la Monnaie de Bruxelles de Così fan tutte, et il était très convaincant. Elles ont 16 ans, elles sont nues sur la plage, elles sont à Naples, il fait chaud, c'est érotique, elles sont en... Et puis quand elles... Alors moi je dessine ça, mais ça a été une grande leçon, parce que quand les dames sont arrivées, elles n'avaient absolument pas 16 ans et absolument aucune envie d'être en strip sur la plage. Et donc il a fallu absolument recommencer avec joie. Mais au moins la photo, au moins les mensurations. Et quand j'ai pu rencontrer Julie, c'était formidable. Mais il y avait un petit clin d'œil aussi, j'étais d'autant plus... non pas soucieux, mais attentif, que j'avais regardé une production à Dex cet été-là, qu'elle était interviewée à l'entracte et qu'on lui posait la question des costumes. Oui, bon, ben moi, je mets ce qu'on me donne. Hein. Enfin bon, des fois, j'aimerais bien donner mon avis. Elle était très belle, le costume était très beau, mais je sentais bien que c'était enfin quelqu'un comme j'aime qui se soucie aussi au-delà de son confort, du personnage. Et puis, humainement, Julie, c'est quelqu'un qui vibrionne, qui est généreuse, on a beaucoup ri. Et au-delà de ça, il y a l'émotion et les larmes. Ça a été un très, 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 très grand moment, ce fameux soir du conte au riz, où la salle était absolument galvanisée, parce qu'il y a des moments comme ça. C'est un peu comme une faïne réussie en corrida. On peut, quand on est aficionado, assister à 3000 corridas abominables, pour juste la belle faïne miraculeuse. Et ce soir-là, ça faisait partie un peu. C'était une belle faïne que tu avais. Puis on est méridionaux aussi. T'as lyonnais.
C'est drôle parce que cette comparaison avec la corrida, c'est une des premières choses que m'a dit mon professeur de chant donc à Avignon. Hein, donc, il m'a dit l'opéra, c'est la corrida. Et donc, c'est marrant qu'on reparte sur cette comparaison.
On va faire Carmen tous ensemble.
Ah, j'adore.
Il y a une district.
J'essaie d'être plus vieille pour chanter.
Julie Fuchs, on pourrait vous écouter dans plusieurs répertoires parce que vous êtes une interprète éclectique qui aime les rôles au tempérament comique ou pas. Vous pouvez vraiment chanter et jouer beaucoup de choses. On pourrait vous écouter quand vous avez rendu hommage à Johnny Hallyday, à ses obsèques dans l'Ave Maria de Schubert. Mais je voudrais qu'on vous écoute dans le dernier disque avec vous. Le dernier disque sorti, c'est Seul dans la nuit, Leila, les pêcheurs de perles de Bizet. Mmh. Vous voulez bien qu'on se dise au revoir sur cet air ?
Avec plaisir. Enfin, je veux pas qu'on se dise au revoir, mais bon, d'accord,
à tout de
avec
suite.
Cet air.
Thank you.
Julie Fuchs dans Les Pêcheurs de Perles, c'est son dernier disque. Julie Fuchs, Christian Lacroix vous écoute les yeux fermés.
Extase.
Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, occupez-vous bien de votre petit garçon. Portez-vous bien vous aussi.
Merci.
Et merci encore une fois à Axel Michet d'avoir été avec nous. Le grand atelier de Christian Lacroix continue. On se retrouve après les infos, monsieur Lacroix.
Volontiers.
À tout de suite.
Enfant, dans l'ennui profond de l'enfance, je regardais autour de moi, rien ne me convenait, et je redessinais tout dans des cahiers, l'apparence de tel cousin, telle cousine, de telle maison, de telle voiture, de la ville. J'ai vécu par procuration, par dessin interposé pendant des années, et aujourd'hui c'est devenu mon métier.
Et pourquoi riez-vous, Christian Lacroix? J'aime bien quand vous riez comme ça. C'est vous qui vous faites rire?
Non, j'aime pas beaucoup m'entendre d'abord, mais voilà. Mais c'est vrai ce que je raconte là, oui.
C'est vrai. c'est vrai ce que je dis, dit Christian Lacroix. Deuxième heure en compagnie de cet ex grand couturier qui, de sa main, de ses dessins, de son univers, fait autre chose depuis une dizaine d'années. Des costumes, des décors, des objets, de la scénographie. Vous mettez en scène des objets dans des expositions. Vous vous définissez d'ailleurs depuis environ 13 ans comme décorateur.
Ou designer, parce que décorateur, c'est...
Je vous ai entendu dire décorateur. Vous dites plutôt designer aujourd'hui.
Oui, je dis décorateur par rapport à peintre. Parce qu'il y avait la grande phrase de Balenciaga, grand couturier des années 50, 60, fin 40, etc., qui disait que pour être un grand couturier, il fallait absolument être un architecte, un musicien et un décorateur. Et moi, je n'étais que décorateur. Je ne suis pas architecte, donc j'ai besoin d'architecte, comme Véronique.
Ah voilà, vous avez plusieurs invités autour de la table. Alors, qui est Véronique?
Véronique Dolphus est scénographe d'exposition. Et là aussi, moi, j'ai toujours le bon rôle. Je dessine, je fais trois crobards illisibles. Et après, débrouille-toi. Donc, on a fait deux expositions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Parce que moi, j'aime être avec des gens dont je me sens proche, des jolies rencontres. On s'est rencontrés sur une exposition pour le Grand Palais de Lucien Clerc, une rétrospective de Lucien Clerc, qui, hélas, a été vernie un jour tragique, qui était le lendemain du Bataclan. Mais bon, justement, il faut réagir et faire de grandes et belles choses.
Et vous avez retravaillé ensemble, on en parlera dans un instant. Il y a un monsieur qui nous a apporté ça.
Oui, Jean-Luc André.
Et ça, c'est quoi?
Ce sont des meringues qui sont juste ce que al dente. Elles sont bien un peu tendres à l'intérieur et solides à l'extérieur. Ça, c'est rare.
Jean-Luc André, qui est un grand chef.
Qui est un grand chef de la rue Pétrel, le restaurant Pétrel et... mon restaurant favori depuis que tu es ouvert. Depuis toujours.
Qui se trouve dans le 9e à Paris, rue Pétrel. Et puis à côté de vous, il y a un jeune homme qui ne nous a rien apporté, lui.
Oh ben si, sa beauté, son talent. C'est Louis Arène.
Bonjour.
Comment on dit, ex-comédie française, ce que tu dis, toi.
C'est vrai qu'on vous a vu jouer à la comédie française comme pensionnaire et vous avez quitté la comédie française pour vivre d'autres aventures. Vous nous en parlez dans un instant. On va écouter de la musique, si vous le voulez bien, Christian Lacroix. On a cherché une musique du Sud, vous l'Arlésien, l'amoureux de la culture du Sud, l'amoureux de la culture gitane, espagnole. On a pensé vous faire plaisir en écoutant Buica. Est-ce que vous connaissez Buica?
Pas du tout.
Elle chante « Mi niña Lola ».
¿Por qué tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Puesto la carita del color de la amapola, mi niña Lola, mi niña Lola. Se la ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola. Estás en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Alors, votre jugement sur Bouika, Christian Lacroix?
Merci pour le cadeau.
C'est beau, hein?
Ah, vraiment.
Vous dessinez, là, depuis tout à l'heure, depuis une heure, vous avez dessiné...
On se gribouille.
Non, il me semble
graphite.
Reconnaître un costume, une robe de princesse.
Non, mais je m'aperçois que j'empiète sur de très grands dessinateurs.
Oui, c'est vrai que les dessinateurs qui passent ici dessinent comme ça sur les tables du studio, comme vous êtes en train de le faire. C'est peut-être une nouvelle interprétation de la princesse de Clèves. Je disais, il y a dans ce studio un homme qui prépare des meringues quand il est invité, mais il ne fait pas que ça dans sa vie. Notre chef cuisinier Jean-Luc André, vous fréquentez visiblement son établissement, le Pétrel, 34 rue Pétrel dans le 9e à Paris. Pourquoi souhaitiez-vous sa présence?
Parce qu'il m'accompagne, on s'accompagne, même quand on se voit pas, on s'accompagne. Je reçois parfois de jolies images à 4 heures du matin quand il est au hall. Et c'est quelqu'un de très particulier. On s'est connu avant le Pétrel, avant sa vie du Pétrel. Il était rue Saint-Marc.
Il y a plus de 20 ans, alors.
Ouais, il y a plus de 20 ans. Oui, le Pétrel a 25 ans. Donc, on parle du siècle dernier, quoi.
À quelle occasion vous vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés avec Patrick Moriès. C'était un soir de vernissage qui était particulièrement réussi et émouvant pour moi parce que je me suis retrouvé voisin de table de Patrick Modiano. Ouais. Et donc là aussi, c'était deux grands icebergs de timidité.
Oui, vous le lisez depuis longtemps, Modiano.
Je le lis depuis longtemps, donc j'étais très impressionné de l'avoir à côté. Et puis je me suis rendu compte qu'on était absolument de la même race zoologique, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à parler. À l'époque, j'étais un peu plus...
Et vous avez entamé un dialogue, tous les deux, à partir de ce soir-là?
Naturellement, ça s'est fait... C'est pas des valeurs, mais des légèretés qui se retrouvent à être finalement des vraies valeurs dans le temps. Puis la nourriture, quoi. quand même, à un moment, quand on est à table, on partage beaucoup de choses et ça nourrit le corps, l'esprit, c'est parfait, quoi.
Quand il a ouvert le Pétrel, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est Patrick Moriès qui m'y avait amené, parce qu'on avait fait des gravures à l'atelier Frelot, qui n'existe plus.
Patrick Moriès, qui est écrivain?
Écrivain, et mon jumeau astral, et un de mes meilleurs amis, qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui parce qu'il est à Nice. Donc il me dit, mais Jean-Luc a regretté beaucoup la fermeture de la rue Saint-Marc. Et il a ouvert le Pétrel, et ce qui est merveilleux dans son restaurant, c'est que, qui s'est peaufiné depuis en 25 ans, la décoration, etc. C'est un restaurant où il y a des livres, c'est-à-dire qu'il y a des livres rares, et des beaux livres, et des, ou des vieux magazines, et c'est un restaurant où on lit en mangeant.
Mais pourquoi des livres dans un restaurant?
En fait, c'est arrivé tout bêtement, c'est qu'un jour je m'ennuyais, j'avais une heure à tuer, et j'avais un livre que j'avais à la maison, que je voulais absolument lire, je l'ai emmené, je l'ai laissé. Et en fait, j'ai dit, mais laisse-le, ça partage. Et donc voilà, c'est pas une histoire d'ennui, c'est une complémentarité. Pour moi, c'est une logique d'être à table, d'avoir la lecture, la lumière, la peinture, en fait, tout. C'est un univers.
Vous attachez, je crois, et je parle sous le contrôle de Christian Lacroix, oui, de l'importance au décor, à l'accueil et au décor.
Ben, c'est tout. Enfin, quand manger, c'est important. Donc, si autant avoir un regard, quelque chose qui vous apaise et qui vous inspire et qui vous donne la gourmandise ou qui justement, au contraire, vous donne l'amour pour partager avec la personne qui est avec vous. Quoi.
J'ai regardé des photos parce que je connais pas votre établissement. J'ai vu des livres, des chandeliers, des paniers de légumes, des fleurs. On voit même les desserts à venir, Christian Lacroix.
Oui, puis c'était un restaurant aussi où il y a eu beaucoup d'antiquaires aussi qui venaient, de décorateurs justement.
Ah oui, j'ai toujours beaucoup. Puis il y a des choses, alors c'est toujours un mélange d'époques. Alors je peux être autant passionné par une œuvre contemporaine extrêmement brute, et puis par un travail d'un morceau de bois doré du 17e, tout ça cohabite.
Parce qu'un regret, c'est qu'il a arrêté, parce que le pauvre est déjà exempt de travail, mais on ne peut plus déjeuner au Pétrel.
Il n'y a qu'un service, hein.
Ben vous voulez me tuer.
Mais ce qui était formidable, c'est qu'il y avait les gens de l'EDF qui venaient, et puis il y avait deux vieilles dames, la voisine Matelassière, des dames qui avaient connu le vieux Paris, des gouailleuses, comme
la
ça.
La dernière reine de Paris, en 46, dont j'ai hérité du diadème.
Mais ce qui est bien chez Jean-Luc, c'est que petit à petit, ça s'est dit en 25 ans, le bouche à oreille a fait son chemin, mais même si Madonna est quelque part, on s'en fout.
Oui, il paraît que Madonna est venue chez vous.
Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai toujours veillé à ce que ce soit très hétéroclite. Ce que j'aime, c'est la démarche, c'est-à-dire vous venez pour manger. Mmh. Et quand vous venez pour manger, je trouve que c'est un effort de franchir la porte, donc ça doit être entier. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas tricher avec ça. Donc j'ai toujours veillé à ce que les... J'ai des gens qui se conditionnent pour venir dîner. Je trouve ça hyper joli, mais on ne peut pas les décevoir. Et puis j'ai des gens blasés, mais qu'on arrive encore à surprendre. Et ça, j'aime bien.
Alors, on veut savoir ce qu'on mange, parce que vous employez le terme manger, le verbe manger, et non pas dîner. Hein. On va manger au
Pétrel. Enfin, on est des prédateurs quand même. Hein. Même si si demain vous n'avez pas à manger, vous pourrez tuer père et mère. Hein.
Ce qui veut dire, alors j'ai regardé un peu le menu, fricassé
d'artichaut. On mange son père et sa mère.
On mange son père. Une fois mangé son père et sa mère, on mange une fricassée d'artichaut breton, trévise, roquette sauvage basilic, pigeon de Vendée sans os rissolé, morille fraîche, fraise fondue de rhubarbe, carré croustillant. Que dire de ces plats, Christian Lacroix?
Que c'est hyper simple, que ça vient, il faut le dire, le potager quand même. Dans l'Ardèche, il n'est pas à côté. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu chez ma grand-mère. Il y a des saveurs qu'on a oubliées, que certains ont beaucoup méprisées en route. Coquille Saint-Jacques chez Jean-Luc, elle a vraiment un goût de coquille Saint-Jacques. Et il a quand même des sucres, un savoir, des mystères qui sont absolument
ça veut dire que le matin, à l'aube, quand vous êtes à Rungis en train de faire votre marché, comme tous les chefs, qu'est-ce que vous privilégiez?
Ce qui m'attire, c'est-à-dire l'odeur, le goût, le toucher. Le matin, je ne sais pas ce que je vais trouver. Je suis très primitif dans la cuisine, parce que je ne fais que ce que j'aime et ce que j'ai envie. Et je suis très dans la saison, c'est-à-dire les saisons sont très marquées, entre la légèreté des fruits, des légumes fragiles l'été, ou des choses plus mijotées l'hiver. Puis vous savez, moi, ce que j'aime, c'est le regard, le sourire et le bien-être. Vous savez, j'ai des gens qui arrivent à 20h qui partent à 1h du matin. Parce qu'à un moment, l'apaisement est là et le temps est oublié.
Vous voulez dire que les gens ne regardent pas leur portable chez vous?
Non. Déjà, ils passent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Puis on l'oublie. Enfin, le portable, ça s'oublie, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous êtes bien, si votre attention est attirée par autre chose, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, si vous voulez, faites tout pour qu'il soit bien, tout va bien.
Vous n'aimez pas l'expression qu'on voit affichée quelquefois sur la porte des restaurants qui est fait maison? Pourtant, tout est fait maison chez Jean-Luc Cambray.
C'est telle évidence qu'il n'y a pas besoin de le noter, quoi.
Question triviale, est-ce qu'il faut économiser pendant plusieurs années pour aller dîner au Pétrel?
Non, tout est possible. Vous pouvez dépenser votre salaire astronomique et vous pouvez dépenser rien du tout.
Ou un salaire de service public.
Voilà, absolument.
Le Grand Atelier. Sur France Inter.
I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told her without all the rain, there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only caught the train, cause you know I hate the bus. Never get enough.
Born and raised. Attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing. Leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter, ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mom. One.
Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
Lui, c'est un Anglais, un Britannique. Oh. Loyal Carner, peut-être.
On avait senti l'œil.
Vous avez senti la patte.
La britannité.
On a un comédien qui a travaillé à la Comédie Française, mais qui vit d'autres expériences maintenant, qui met en scène aussi, c'est Louis Arène. Alors on va partir, si vous le voulez bien, Christian Lacroix, pour la Comédie Française, visiter les ateliers costumes avec Sylvie Lombard.
Formidable.
Directrice de l'habillement. Sous les toits du Français, une cinquantaine d'artisans s'activent dans un ensemble d'ateliers unique en France, vraiment, qui va des tailleurs aux modistes, en passant par les lingères et les perruquiers. Environ 200 costumes y sont créés chaque année. Sylvie Lombard accueille 5 créateurs extérieurs chaque saison, et parmi eux, depuis plus de 10 ans, vous, Christian Lacroix, reportage Vinciane Lomonier.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Donc voilà, là nous sommes dans l'atelier des costumières réalisatrices qui s'occupent donc de tous les costumes femmes. Et bien d'ailleurs je vois qu'il y a la robe de Lucrèce Borgia qui est remontée dans les ateliers. On a joué hier soir, elle est là.
Robe noire.
La robe noire, remontée, parce qu'elle a besoin justement d'un entretien et d'une petite rénovation.
Donc là, on est sous les toits, en fait, de la Comédie Française.
Absolument, nous sommes dans les mansardes, et donc on respire sous les toits.
Alors des robes suspendues, des glaces partout.
Un salon d'essayage qui s'invente de cette manière-là lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire
on tire en miroir.
On tire le miroir, ça nous ferme une porte et ça nous isole un petit coin d'essayage.
Christian Lacroix, lui, il est quand même connu comme le loup blanc ici. Maintenant, c'est aussi un petit peu sa maison. Il est venu plusieurs fois.
Presque un habitué des ateliers costumes.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est toujours permanent chez lui dans sa façon de travailler ou qui caractérise un petit peu son travail?
Je crois que le meilleur fil conducteur, c'est le texte et son travail avec la mise en scène. En revanche, bien sûr qu'il y a une patte. On peut retrouver des choses comme il aime le rouge, par exemple, Christian. Et je vais prendre l'exemple de Scapin, où on a tout réalisé, tout fabriqué, mais à partir de choses qui existaient dans le stock. Et ça, c'est un travail que Christian aime bien et que j'aime beaucoup partager avec lui aussi. On transforme les choses et on retrouve une forme de richesse de l'histoire et puis une possibilité de réinventer. C'est ici que nous fabriquons toutes les coiffes, chapeaux, couronnes.
Là, on voit des rubans dans des tiroirs. Là, ce sont quoi ?
Ce sont des formes anciennes de bois sur lesquelles on tire les feutres.
Ouais, celui-là, c'est du tilleul, le bois, c'est du bois tendre. Il faut pouvoir bouer dedans le bois pour le théâtre. Donc ça, c'est Louis XIII. Et la calotte du Louis XIII, elle est là-bas.
Je fais un peu les chapeaux des mousquetaires, moi.
Après, vous tendez en fait voilà. Tous vos matériaux voilà. Dessus.
Exactement, où on pique de la paille, la ficelle pique de la paille, c'est fait sur un bois, elle s'appuie sur un bois.
Vous cousez de la paille.
Oui, c'est ça la machine.
C'est un point de chaînette, on tire sur le fil et ça s'en va.
Ça vous donne en fait un exemple des spécificités que nous avons dans les ateliers et de la rareté de ce savoir-faire et ces différentes techniques que l'on peut mettre au service des créations.
Combien de personnes en tout travaillent ici ?
L'ensemble des services costumes, c'est 55 personnes. Ici, nous sommes chez les tailleurs costumes hommes. Francesca, qui est donc la chef tailleur, qui coupe ici et qui règle les costumes. Actuellement, ce sont des costumes d'époque, Fanny Alexandre, 1907, avec aussi des choses qui peuvent être à la fois du tailleur classique et à la fois du travail d'armure. Une armure, ça c'est une armure ancienne, que nous avons retrouvée et que nous allons modifier un petit peu, mais consolider. Cette réserve de costumes, c'est un livre ouvert sur l'histoire du costume, sur l'histoire des costumiers. Et là, c'en est un. On voulait une armure. On l'a retrouvée dans une boîte au fin fond, pleine de poussière. Voilà. Et on l'a remise en état pour se dire qu'on allait la préserver pour pouvoir la reproduire.
Tous les costumes sont griffés de la marque Comédie Française. Comment ça se passe ?
Ils appartiennent à la Comédie Française, bien sûr. Stockés ensuite dans nos archives. Absolument. Nous sommes ici avec Christiane, qui est responsable de la Tissutech.
Plein de tissus accrochés au mur.
Oui, oui, oui. Il y en a partout.
De toutes les couleurs.
De toutes les couleurs, de toutes les matières. Il peut y avoir des tissus destinés aux vêtements, aussi à l'ameublement. Puis on a aussi des tissus complètement délirants, comme celui-ci, qui semble être du papier bulle.
Ah oui.
Ou alors, voilà... ce qui est appelé à l'opéra, je crois, l'opéra de Lyon, l'organza liquide. En fait, c'est le tissu le plus fin du monde, qui est un polyester qui est japonais. Voilà. Alors, on a des fournisseurs qui viennent du monde entier. Toute la richesse de l'échange, en fait.
Vous, Sylvie, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Le théâtre et les comédiens. J'aurais pu le pratiquer peut-être ailleurs, autrement, mais je l'ai toujours pratiqué pour du spectacle vivant. La scène qui fait vibrer.
On est toujours bien quand on visite un atelier costume en son, là, comme maintenant sur France Inter, ou quand on a la chance de pouvoir voir ces artisans. Vous les écoutiez avec tendresse, Louis Arène, qui a vécu 4 ans comme comédien à la Comédie Française, et vous, Christian Lacroix, qui travaillez finalement assez régulièrement avec eux.
Chaque saison, presque, oui.
Qu'est-ce qui se passe de magique là-bas ?
Bah, c'est une maison de couture, la sérénité en plus, et le plaisir du théâtre et des comédiens, parce qu'il y a d'abord le sens de l'équipe, on a un maillon de la chaîne. Ils sont doués, mais vraiment, ils ont du génie dans les mains, ils ont la connaissance non seulement de l'histoire du costume, mais aussi de la technique. Et c'est un endroit où on trouve ce qui n'existe plus ailleurs. On a entendu la modiste parler, on aurait pu entendre la lingère, ce qui n'existe absolument plus. On sait encore faire des fraises comme au XVIe siècle.
Du coup, on peut tout demander, l'imagination est débridée là.
Oui, ça c'est vraiment un privilège énorme. Et Sylvie a d'autant plus de mérite et de talent et qu'elle prend la relève depuis maintenant 3-4 ans de Renato Bianchi qui a été... son homologue, c'est lui qui l'a formé, elle a beaucoup travaillé avec lui, mais qui était là depuis 1962.
Avec sa barbiche.
Avec sa barbiche. Les ateliers évoluent, les personnes changent, mais il reste une âme de bienveillance aussi. Et de sérénité. Moi, je pourrais habiter là. Moi, je demande à Eric Ruff une loge. Autant dans une maison de couture, je me suis jamais senti chez moi, paradoxalement. si je peux le confesser aujourd'hui, autant à la Comédie Française, je me sens à la maison.
Louis Arènes, vous écoutiez vous aussi avec un sourire sur le visage ces voix de l'atelier, parce qu'un comédien à la Comédie Française n'est pas que sur le plateau en répétition ou le soir en scène devant un public. Il passe aussi du temps avec les personnes qu'on a entendues dans cet atelier.
Oui, c'est vrai que ça agit un peu comme une petite madeleine d'entendre ces voix à nouveau et puis cette atmosphère bienveillante. C'est vrai que c'est un endroit sous les toits, c'est ce petit perchoir hors du temps. C'est vrai que c'est un... Moi, j'aimais beaucoup me balader là-bas. C'est un vrai nid. C'est également l'étage où on trouve les perruquiers, les coiffeurs et les perruquiers. Donc, c'est, pour moi, c'était un petit paradis.
Il y a quelque chose de l'enfance, là.
Hein, oui, complètement. C'est la malle au costume, quoi. Oui. C'est la malle au déguisement dans laquelle on va piocher. Et si on met ça comme ça? Et si on mettait si on faisait un plus gros ventre? Et si, et si on essayait avec une perruque, avec des cheveux comme ça? Et puis, oui, c'est fascinant. Et puis, c'est des gens qui sont extrêmement à l'écoute, qui ont envie, etc. Donc on fait des expériences. Enfin, c'est vraiment un endroit dont je garde un très très bon souvenir.
Vous avez porté des costumes Christian Lacroix à la Comédie Française, Louis Arènes?
Non.
Alors quelle est la connexion? Comment vous rencontrez-vous?
On se rencontre parce que Louis est resté très fidèle aux Français et qu'il vient aux premières. On a sympathisé, mais après c'est Denis qui avait demandé à...
Podalydès,
qui avait demandé à Louis de faire les masques pour sa mise en scène du Crest Borgia. Et on s'est dit qu'un jour on travaillerait ensemble.
Oui, parce que Louis Arènes aime aussi concevoir des masques. Et quand vous faites un spectacle, car vous êtes metteur en scène, vous avez besoin de choses qui nous sortent un peu de la réalité, qui nous emmènent vers une forme d'onirisme ou de cauchemar, en tout cas vers une sorte de fantastique. Mmh. Et ça passe par le masque.
Le masque est un outil, je tiens vraiment à ça, au même titre que tous les autres artifices qu'on peut avoir à notre disposition, que ce soit la lumière, le son, les costumes. J'essaie vraiment de ne pas faire des spectacles de masques. Tous les comédiens de la compagnie et moi également, on a une tradition, une formation de théâtre masqué classique, on va dire, qui nous a beaucoup aidé, inspiré dans notre travail. Mais ce qui m'a surtout fasciné dans cet objet, c'est comment ça nous permet de travailler en creux, de travailler sur nos mystères et puis effectivement de dérailler un petit peu des rails de la réalité, d'essayer de décaler un petit peu la perception. Mais encore une fois, c'est un outil au même titre que tous les autres médiums qu'on a à notre disposition.
Mais c'est bien, ça crée du trouble, je trouve, vos spectacles et l'utilisation très délicate de ce qu'on appelle un masque. Moi, j'avais vu Le Chien, la Nuit et le Couteau de l'Allemand Mayenburg, qui travaille souvent avec Thomas Ostermeyer, et j'ai souvenir de comédiens dont le visage était recouvert d'une très fine peau. Du coup, ça provoque un décalage, on ne sait pas vraiment où on est.
Oui, exactement. C'est des masques qu'on a voulu vraiment très très légers. Même à une certaine distance, le masque n'est pas forcément visible, mais il crée effectivement une sorte une distance. Et comme vous le dites, c'est une fine peau qui fige une sorte de visage et qui en offre un autre. Selon les expressions du comédien, on a l'impression que le visage change. Je travaille avec une matière qui est très fine et très la même couleur de la peau et qui brille de la même façon que la peau. Donc ça crée vraiment un trouble. Une étrangeté.
Vous avez appris à faire des masques ou à transformer les comédiens avec lesquels vous travaillez ou... C'est une technique, ça.
Depuis tout petit, j'ai le goût du dessin et de la peinture, donc j'ai commencé comme ça, en inventant des histoires, en faisant des dessins, des bandes dessinées, en faisant des personnages avec des gros nez, etc. Ensuite, quand j'ai commencé mon travail de comédien, j'ai mis un peu ça de côté, et puis quand l'envie de faire de la mise en scène est venue, m'est apparu le fait que je pouvais allier en fait les deux techniques et comment insuffler le dessin, la sculpture sur une scène, comment modifier les corps, modifier les visages, modifier les ambiances, les atmosphères, etc. Donc j'ai appris sur le tas et puis en rencontrant des gens notamment à la Comédie Française qui m'ont donné des conseils, tiens tu devrais essayer ce matériau, tu devrais essayer de regarder ça, cette matière-là. C'est au fur et à mesure des nécessités en fait, des envies, des images qui m'apparaissaient, et puis des bonnes personnes rencontrées sur mon chemin.
Alors vous avez de la chance parce que vous faites du dessin depuis l'enfance. Un jour, vous rencontrez Christian Lacroix.
Ben oui.
Et est-ce que vous faites appel à son talent ou à ses talents?
À Christian Lacroix.
Oui.
Bien évidemment. C'est le projet sur lequel on travaille avec le Moonstrom Théâtre, qui est ma compagnie, donc que je co-dirige avec Lionel Ingelser. C'est très important. On est tous les deux à la tête de cette machine.
Oui, vous êtes connu en apprenant le métier de comédien.
Oui, c'est ça. On travaille sur deux pièces de copie, Les Quatre Jumelles et L'Homosexuel ou La Difficulté de s'exprimer, qu'on mixe dans un gros spectacle qui s'appellera 40 degrés sous zéro. Et très vite, on a eu l'idée de travailler sur des figures très très imposantes. Le théâtre de copie, aujourd'hui peut paraître peut-être un petit peu surannée, une image un peu vieillotte de cet auteur des années 70 qui a voulu choquer le bourgeois en montrant des...
À l'époque des années de dictature de Péronne.
Voilà, exactement. Oui.
Et vous essayez d'en faire quelque chose qui parle aux spectateurs d'aujourd'hui.
Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, avec la distance qu'on a, on peut vraiment réinterroger l'écriture de copie et puis en tirer toute la beauté étrange, toute la force révolutionnaire aussi.
Et la croix là-dedans. Alors, Christian Lacroix, comment vous intervenez sur ce spectacle sur copie?
La croix, il a le privilège de l'âge parce qu'il a connu copie.
Ah oui. Est-ce que ça vous aide à dessiner?
Ce que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment convaincu, j'avais dit un peu une espèce d'intuition qui, quand je dis oui, mais quelquefois c'est très tôt. Je sais pas ce qui va m'arriver. Mais Louis, j'avais envie de lui dire oui.
Pour quelle raison?
Je sais pas, l'histoire des masques déjà, parce que je déteste les masques normalement. Le masque vénitien me fait fuir, le carnaval à Venise, jamais, ça me donne des boutons. Mais les masques tels qu'il les conçoit et qui joue justement de manière tellement subtile avec le visage et avec la gestuelle, c'est magnifique, ce qu'il avait fait sur Lucrèce. Et puis copie, moi c'est un sésame, parce que j'arrive à Paris en 73, et un des premiers spectacles que j'ai vu au Palace, quand c'était encore un théâtre, c'était Les Quatre Jumelles, mises en scène par Lavelli. Et j'ai vu pratiquement toutes les pièces de copie jouées par copie. Et ce que j'aime dans l'approche de Louis, c'est que justement, il le respecte, mais il le remet dans le contexte de notre époque, ce qui fait ressortir encore davantage la virulence et l'actualité. Ce qui est bien, c'est que moi, j'aime pas travailler de la même manière. Je trouve que dans les rencontres, il y a forcément un mode d'emploi qui s'installe. Alors, il est vrai que je commence toujours par faire un grande malle d'images que je propose, on dit oui, on dit non. On échange parce que Louis avait lui-même des images fantastiques, magnifiques, des vidéos sublimes, et on a mis ça en commun, et là maintenant, pour chaque personnage, on a une petite boîte, et mais comme il a aussi, il est très ambitieux, et il a entièrement raison, parce que ça va être vraiment fantastique, une idée, bon, on va pas tout dévoiler, mais sur le corps et ses déformations et sa destruction, c'est terrible à mettre au point. Et dès que vous dites du sang à une costumière ou à un atelier de théâtre, ou simplement aux gens qui sont chargés de laver les costumes tous les jours, c'est un cauchemar qui s'annonce.
On le verra quand ce spectacle ensanglanté.
Très ensanglanté.
Puis la nuit je vais. Oh, toi que j'eusse aimé. Oh, toi qui le savais.
Le poème que met en musique François Atlas et qu'il interprète, quel est-il, Christian Lacroix? Est-ce que vous l'avez reconnu, ce poème?
Vous l'avez soufflé, il faut être quand même un peu honnête.
arrêtez d'être honnête comme ça. À une passante de Baudelaire. François Atlas, dont vous aimez la batterie, Louis Arène?
Oui, exactement. Je travaille avec Jean Thévenin, sous son nom de scène Jaune,
qui est batteur de François Atlas.
Qui est batteur de François and the Atlas Mountain, et qui, à côté de ça, travaille en solo, et qui, ça va être la troisième collaboration qu'on va entamer avec lui sur le spectacle 40 degrés sous zéro, donc le spectacle de copie, et qui est un musicien, un créateur complètement fou, délirant, très inspiré.
Qu'on verra bientôt. Ouais, Véronique Dolphus, vous ne faites pas de batterie, vous ne créez pas de costume, donc qu'est-ce que vous faites exactement si vous ne créez pas de costume?
Je fais de la scénographie d'exposition.
Alors, il faut expliquer ce que c'est que la scénographie.
Je mets en espace des expositions dans les musées, à Paris, au Vietnam aussi. Et j'ai rencontré Christian Lacroix et son équipe sur une exposition sur Lucien Clergue au Grand Palais.
Le photographe arlésien.
Voilà, le photographe arlésien.
L'un des fondateurs des rencontres internationales de la photo d'Arles.
Il y a quelque temps.
2015, oui.
Ce qui s'est passé, c'est que Christian avait une idée de mise en espace et que je l'ai mise en forme.
L'idée, c'était d'avoir, parce qu'on était dans cette salle très difficile et très imposante du Grand Palais, et pour être fidèle à l'esprit de Lucien Clergue, d'avoir beaucoup de noir et blanc, donc j'avais ressenti le besoin de mettre de la couleur, mais d'éviter les angles droits et d'avoir une sorte de sinusoïde. Et ça, c'était difficile. Ça peut être très cher aussi à construire.
De casser un peu l'espace.
Tout ce qui est rond, arrondi est plus difficile. Avec une moquette qui est un peu un porte-bonheur qu'on avait créé pour certaines expositions, justement aux rencontres de Arles, qui reprennent le carrelage 18e de l'ancien archevêché, qui est une salle d'exposition désormais. Et donc moi j'arrive et je fais mon petit crobat, je dis voilà, je voudrais que ça fasse comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça.
On entend le son de votre stylo.
Voilà, et Véronique a une grande expérience, et qui sait ce qui est possible ou pas selon les espaces et selon les budgets, réalise, construit, elle fait tout le sale boulot.
Comment parleriez-vous de ce métier? Qu'est-ce que vous avez vu à l'œuvre?
Je dirais que je fais le même métier que lui quand lui fait de la scénographie, mais que ses idées me surprennent au départ.
Qu'est-ce qu'il a eu comme idée farfelue?
Ce que je connaissais pas de Christian, c'était son amour de la moquette. Voilà.
Et ça, c'est sans
la moquette. La moquette et le support. Bon, le dessin au sol, et l'ambiance que cet élément-là apporte.
Oui, c'est intéressant de savoir comment vous regardez un espace.
Oui, parce que je pense que c'est tout ça, c'est le décor, c'est le théâtre,
c'est la théâtralité de l'espace.
Alors que moi, en tant que scénographe, je fais des choses plus brutes, avec des matériaux plus unis, avec tout de suite derrière, effectivement, l'idée du budget, etc., qui bride quand même un peu.
On va évoquer ce que vous faites en ce moment à Avignon, dans la chapelle du Palais des Papes. Ça aussi, un sacré espace à habiter, à décorer aussi. Mais je voudrais qu'on écoute ce photographe Lucien Clergue, qui a disparu il y a quelques années. Ce faiseur de nus féminins, parmi ses photos célèbres, il y a ça. Il y a aussi les gitans d'Arles, il y a les taureaux. On l'écoute parler de votre ville, Christian Lacroix.
Et Arles, c'est une sacrée ville. J'aime autant vous dire que je ne suis pas arrivé à la fixer en soi. La ville elle-même est tellement fascinante, a été tellement faite par beaucoup de peintres. Van Gogh est passé par là, vous vous rendez compte, c'est une chose terrible lorsqu'on veut s'attaquer à cette ville-là. J'ai beaucoup de difficultés à m'y attaquer. Et je préfère bien souvent, au fond, elle est tellement près de moi, si vous voulez, j'y suis tellement tous les jours dans ces rues, que je préfère la montrer telle qu'elle est. Par exemple, lorsqu'ils viennent des copains visiter, des amis d'ailleurs, de Paris ou d'ailleurs, on se prend dans les rues et on va à sa découverte. Et je crois que si vous voulez, on pourrait faire peut-être pareil, non, puisqu'on est des copains.
C'est beau cette petite musique pendant ça.
Ah oui, la petite farandole derrière, c'est très joli.
Arles, c'est vrai que c'était pour vous peut-être un décor de théâtre quand vous étiez enfant et adolescent, non?
Ah, complètement, c'est un théâtre. Ah, oui, bon. D'ailleurs, il y a le théâtre antique dans lequel on allait se faire nos petites productions. C'est vrai qu'on jouait pas au gendarme voleur ou au cowboy aux Indiens. On jouait au gladiateur, on jouait à Jules César.
C'est une ville avec des décors. Le musée Réattu, où vous alliez vous réfugier enfant, c'était un décor en soi.
Oui, c'est un palais de l'ordre de Malte. Mais justement, c'est là que j'ai fait ma première scénographie. Et c'était juste une année avant que la maison de couture ne s'arrête. Là aussi, il y a une intuition qui m'a fait penser que j'étais un peu comme la princesse de Clèves, dont je sens qu'elle va m'ouvrir d'autres horizons, en étant appelé à la fois comme directeur artistique des rencontres en 2008 et commissaire d'une exposition, où j'étais chargé de mettre en regard les œuvres classiques de ce musée Réattu, de magnifiques peintures du 18e et du 17e et autres, avec des pièces d'artistes contemporains de mes amis, et mêlé à des robes de couture, avec beaucoup de moquettes, effectivement.
Déjà. Et quand vous étiez enfant dans les années 50-60 à Arles, pour vous, Avignon, c'était Paris.
Oui, d'ailleurs, la rue José Vernet, on appelait ça le Faubourg Saint-Honoré, on allait s'habiller là, on allait trouver ce qu'on trouvait pas à Arles. Avignon est une ville impressionnante, le Palais des Papes est impressionnant, il est sublime, mais c'est vrai que cette salle aussi, on parlait tout à l'heure du Grand Palais, mais la grande chapelle du Palais des Papes, Véronique a été... là, j'étais pas perdu, mais j'avais une première idée qui était vraiment pas la bonne. Des petites casemates, des petits box comme ça.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé, Véronique Dollfus? Qu'est-ce que vous faites actuellement à Avignon, dans cette chapelle, ensemble?
C'est une exposition qui présente les musées de la ville d'Avignon.
Donc des œuvres diverses.
Des œuvres diverses. Christian a pioché dans ses collections. Et l'exposition présente, d'une part, une sélection d'œuvres de chacun de ces musées, et d'autre part... un cabinet de curiosité imaginé par Christian à partir d'œuvres de tous ces musées.
Alors j'imagine que vous avez choisi des pièces très originales, peut-être méconnues.
J'ai eu la chance d'entrer là, comme dans la caverne d'Ali Baba, où moi j'étais un tintinophile quand j'étais enfant. Alors pour les auditeurs qui ont aimé Tintin ou qui aiment Tintin, il y a les frères Loiseau, à un moment donné, qui ont une espèce de grande réserve d'antiquité. Comme ça, j'avais l'impression que c'était ça. Puisqu'il y avait 5 musées, on en reconnaît tous, le musée Calvé, où il y a la belle peinture, qui est un peu un petit Louvre, même presque un Louvre avignonnais. Mais on ignore après tout du musée d'histoire naturelle, qui est très touchant, avec des herbiers, etc. Il y a un musée, le palais du Roure, qui est une sorte de où il y a tout le patrimoine provençal. J'oublie le musée lapidaire et le petit palais où il y a tout ce qui est peinture et sculpture médiévale. Et ces musées-là ont été donc réunis. Donc chacun a son espace avec les plus belles pièces choisies par les conservateurs. Là, et la directrice des musées qui s'appelle Pascale Picard et qui chapeaute tout ça et qui a été notre mentor, interlocutrice, voilà. Et puis, de l'autre côté, j'ai laissé libre cours à montrer les choses les plus humbles, parce que je trouve que un pot de chambre du 18e, quand il a une très belle forme, je l'ai mis à côté d'un cratère grec extrêmement rare, ce qui a fait peut-être un peu grincer des dents à certains conservateurs. On est parti aussi de certains tableaux. Il y a une création du monde qui est magnifique du musée Calvé. Donc il n'y avait plus qu'à suivre le fil rouge.
Vous avez toujours aimé de toute façon mélanger les époques en plus de mélanger les gens.
Ça c'est presque un moteur. J'ai toujours besoin de mélanger l'espace et le temps.
Sur vos robes, il y avait
l'histoire de la vie.
Sur vos robes, il y avait du 19e siècle et des choses régionalistes comme du folklore breton d'une autre époque.
En France, je jouais beaucoup, alors je ne sais pas s'il existe encore, ce jeu de cartes où il y a la tête, le buste et le bas et on mélange tout. Et j'en avais trouvé un avec des tableaux, c'était formidable. Et j'ai toujours eu besoin de cette collision qui donne toujours une espèce de petite violence comme ça. Et puis aussi mélanger l'humble avec le somptueux.
Voilà, il reste le même quand il expose, si je puis dire, quand il permet à des expositions d'exister, Véronique Dollfus.
Absolument.
On va écouter, si vous le voulez bien, Annie Lennox. Pourquoi ? Parce que Christian Lacroix, vous aimez Annie Lennox, tout simplement, que les années 80 ont eu beaucoup d'importance dans votre vie.
J'ai l'impression d'être le grand-père du dimanche après-midi.
Alors, raconte.
Papy, on va te faire écouter Annie Lennox, tu as beaucoup aimé. Les années 80, je ne les ai pas beaucoup aimées, en fait. Je leur
vous avez démarré
parce
là.
Que je suis né là. Ouais. Je suis un pur produit des années 80. Donc je dois être un peu vulgaire, un peu toc, un peu battu.
Et si je vous dis si je vous dis Why d'Annie Lennox,
je pourrais pas le chanter, mais je serais heureux de l'écouter.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Dollfus, Louis Arène, Christian Lacroix, on va devoir se quitter. Je vais quand même vous rappeler que La Princesse de Clèves est disponible chez Gallimard avec les dessins, les illustrations de Christian Lacroix. On se quitte avec une phrase que vous aimez, que j'aime moi aussi beaucoup, de Nietzsche. Vous la citez dans un livre qui a paru chez Gallimard il y a quelques années. C'est « Il faut beaucoup de chaos dans le cœur pour accoucher d'une étoile qui danse ».